Vous écoutez, on lit pour vous.
Plaidoyer pour mieux vieillir chez soi, un texte d'Alexandre Courtemanche publié le 6 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. Et si les aînés pouvaient rester chez eux plus longtemps en bénéficiant de plus de soins à domicile? Alors que le Québec promet une nouvelle politique en ce sens, les associations de défense des droits des aînés ont de grands espoirs et souhaitent que des investissements massifs soient faits pour accompagner les aînés. Gilbert de Champlain, 76 ans, souhaite rester chez lui à Sainte-Luce le plus longtemps possible, malgré les défis que la vieillesse peut engendrer. À son âge, il est encore en bonne forme et fait sa promenade quotidienne de 7 km avec son fidèle chien Cognac. Tout de même, il a recours au service d'Hélène, une préposée de l'organisme Les Bourgeons de la Mitis, pour lui donner un coup de main pour l'entretien de sa maison, dont il doit s'occuper seul depuis une dizaine d'années. Une aide précieuse qui lui permet de continuer à vivre dignement à son domicile. « Autant que possible, je veux rester ici autant que je peux », confesse M. de Champlain. « Quant au service qu'il reçoit, c'est certain que ça aide à rester chez nous », commente-t-il. Il n'est pas le seul à penser de cette façon. Vieillir chez soi est un souhait généralisé dans la population québécoise et ceux qui entrent dans l'âge vénérable commencent à être légion. Près de 30% des Bas-Laurentiens ont plus de 65 ans. La région représente le futur démographique de la province, dont le vieillissement de la population se poursuit année après année. Les aînés devraient en représenter le quart d'ici 2031. Québec mise depuis longtemps sur le soutien à domicile pour faire face à cette réalité démographique et a adopté une première politique en ce sens en 2003. En 2024, le gouvernement actuel a annoncé qu'il souhaitait mettre en place une politique nationale proposant une vision renouvelée pour encadrer les soins et services à domicile. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, 100 groupes et organismes ont été invités à des consultations particulières et la politique sera adoptée prochainement. Le ministère n'a cependant pas donné d'horizon précis et a refusé notre demande d'entrevue sur le sujet. Beaucoup de besoins, peu de services. Malgré un quart de siècle guidé par cette politique, le taux de réponse aux besoins pour obtenir du soutien à domicile est d'à peine 10%, selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Le modèle québécois actuel de soutien à domicile, SAD, échoue largement à répondre adéquatement aux besoins de la population, mentionne l'étude, qui conclut qu'un investissement massif est nécessaire pour opérer un virage réussi. On a négligé la prévention, on a négligé les services à domicile, affirme sans détour Pierre-Paul Malenfant, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, de l'Est du Québec. Les gouvernements, un après l'autre, ont négligé de s'occuper de cette situation-là et on se retrouve aujourd'hui dans un piteux état au Québec, ajoute-t-il. Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux, près de 14 000 personnes sont en attente d'un premier service de soutien à domicile. De ce nombre, 364 se trouvent au Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, on y est arrivé. Les indicateurs au rouge sont là. La population est vieillissante. On a une personne sur quatre qui a un service qui lui est rendu, alerte Solange Tremblay, présidente du regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de la santé, RIIRS. La nouvelle politique est donc attendue de pied ferme par les différentes organisations de défense des droits des aînés. Les services de soutien à domicile prennent différentes formes et sont soutenus différemment par l'État en fonction de la nature du soutien, du profil du prestataire et de son logement. Ces services sont subdivisés en une multitude de catégories. Ceux d'aide à domicile représentent les soins et services qui visent à soutenir l'usager dans des activités de la vie courante. Ils peuvent être fournis, entre autres, par un organisme d'aide à domicile, une entreprise privée ou un organisme communautaire. Simplifier les demandes d'aide. Les organismes demandent, outre un investissement massif dans le soutien à domicile, une simplification du processus de demande. C'est vraiment très compliqué. Même une chatte en perdrait ses petits, commente Pierre-Paul Malenfant. La porte d'entrée des services et du soutien à domicile devrait se faire via les CLSC, avec une universalisation des services, soutient le président régional de l'AQDR. Une partie importante des services de soutien sont fournis par les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, EESAD. Il s'agit de coopératives ou d'OBNL de proximité. On en compte une centaine dans la province. Le directeur général du réseau de coopération des EESAD, J. Benoît Caron, souhaite un élargissement du type de service auquel la population puisse accéder. On veut qu'on puisse inclure dans le programme les services d'assistance personnelle, les services de répit, précise-t-il, en soulignant que ces services ne sont actuellement livrés et remboursés par l'État que sur demande du réseau de la santé dans le cadre d'un plan de soins. Toutefois, un usager peut faire une demande pour ces services en s'adressant à l'organisme responsable dans sa région, s'il est prêt à en assumer le coût en attendant qu'il soit potentiellement inclus dans le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Ce qu'on veut, dans la politique nationale de soutien à domicile, c'est que ces valeurs-là, ces critères-là de qualité, d'accessibilité, de proximité, soient omniprésents et éviter la marchandisation des services. D'ici 2040, 223 400 personnes supplémentaires auront des besoins en soutien à l'autonomie, soit une augmentation de près de 70% par rapport à 2023, selon le commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Un défi titanesque à relever. Du côté des EESAD, on s'affaire à moderniser les entreprises et améliorer les conditions de travail des employés pour être prêts. Le financement de Québec est cependant incontournable pour permettre le déploiement de ces services de façon à desservir les aînés et leurs besoins qui affluent. C'était « Plaidoyer pour mieux vieillir chez soi », un texte d'Alexandre Courtemanche publié le 6 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Dissidente, un texte de Christian Lapointe paru dans Le Devoir. Il faut se réjouir des changements s'opérant depuis un moment à la tête des théâtres à Québec et à Montréal. Le roulement au poste de direction agit comme un pivot qui permet de donner sa chance à chaque génération d'artistes de jeter son regard sur le monde. Comme cet art ancestral est un miroir qui donne à voir la société, il est impératif que ces espaces publics puissent être des courroies fréquemment mises à jour afin d'éviter la sclérose. Or, il n'y a pas qu'en ville qu'on peut se regarder dans la glace éclairante de ce gym du cœur et de l'esprit qu'est le théâtre. Le Québec, c'est vaste. Et notre québécitude s'incarne aussi dans notre relation au territoire. Ce bout de roc qui nous façonne nous érode par sa rudesse et sa douceur. Et il en est de ces lieux comme de ces bibliothèques qu'on chérit tant pour s'affûter la tête. Ils sont partout en région et, depuis quelque temps, ça bouge là aussi à la chaise musicale pour leur direction artistique. Signalons d'ailleurs que sillonne sur les routes ces jours-ci une création qui fait déjà rêver au printemps qui attend de l'autre côté de la froidure hivernale. Fanny, de la prolifique Rebecca Desraps. Mise en scène par les énergiques Marie-Hélène Gendreau et Hubert Lemire, respectivement nommés il y a peu à la tête du Théâtre du Bic dans le Bas-Saint-Laurent et du Théâtre du Double Signe en Estrie, cette production est une douce joie issue de la création hors des grands centres. Non seulement le couple d'interprètes qui incarne Fanny et Dorian nous fait faire un tour de piste heureux par sa maîtrise de l'art du jeu, mais la pièce parvient à forcer largement le prolongement de notre réflexion. Ce couple, qui s'aventure à héberger une étudiante engagée, voit sa vie transformée par la fréquentation de la jeunesse et de ses idéaux. Fanny, comme par contamination, se laisse enivrer par les ferveurs féministes d'Alice, à qui elle donne un toit comme si elle était sa fille. Alors elle plonge, entre en révolution et retrouve en elle la voix oubliée de sa fibre dissidente. Dans son voyage intérieur, elle réalise qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne ressent rien à l'annonce d'un 14e féminicide au Québec. Fanny se lance alors de tout son être dans la militance et se met elle aussi à fréquenter l'université. Devant les nouveaux savoirs qu'elle cumule, elle se demande « Comment on fait pour ne pas avoir envie de tout casser? Comment on fait pour vivre avec la conscience que le monde au complet s'effondre? » Peut-être est-ce souvent la question que pose le théâtre, et peut-être aussi est-il lui-même la réponse à sa question. C'est en se rassemblant pour respirer et réfléchir ensemble que nous trouvons comment vivre avec les horreurs qui meublent nos vies ordinaires. Nos vies si proches de ces femmes qui meurent chaque année dans l'anonymat de leur foyer, si loin des boucheries qu'engendrent ces guerres qu'on regarde, désensibilisées, sur nos écrans. Pourtant, il y a tant de raisons de s'indigner ici, à notre époque. La montée du masculinisme, de l'homophobie et de la transphobie dans les écoles, le refus de reconnaître le phénomène de racisme systémique, toutes ces lois adoptées sous bâillon, les ratés d'investissements publics massifs, le rôle de bouc émissaire dont on affuble les nouveaux arrivants pour, semble-t-il, polariser notre société et gagner des points en vue de la prochaine élection. Ajoutez à cela l'itinérance décuplée et la détresse humaine qui vient avec, ainsi que l'abandon par le gouvernement de ces populations et des organismes qui les soutiennent. Le maintien de l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv en Israël, pays dont le premier ministre a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité qui pèse sur lui, et dont une commission d'enquête internationale indépendante mandatée par les Nations unies affirmait, en septembre 2025, qu'il commettait un génocide à Gaza. Et j'en passe. Or, l'indignation doit se transformer en action pour que l'énergie devienne source de changement et de mobilisation. Il n'y a pas si longtemps, au printemps 2012, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées et ont emboîté le pas aux étudiants, déferlant dans la rue, parfois même sous les matraques et le gaz lacrymogène, pour défendre le droit à une éducation abordable. Cette mobilisation a su montrer que nous sommes capables de cohésion pour envoyer collectivement aux députés qui nous représentent un message sans équivoque, bien que certains d'entre vous détiennent une majorité parlementaire, majorité très relative dans notre système uninominal à un tour. Vous ne disposez pas pour autant d'un chèque en blanc. Mais nous sommes aussi un peuple qui aime peu le conflit. Lors du printemps érable, nous avons en quelque sorte transformé notre colère en fanfare avec nos casseroles. Cette mobilisation historique, qui aurait pu complètement changer notre société, est rentrée docilement à la maison une fois qu'elle s'est fait administrer un léger gel des droits de scolarité. Les boys clubs qui veulent prétendre à diriger notre doux pays de neige devraient garder à l'esprit que c'est le peuple qui, en vérité, détient le pouvoir, car c'est de lui qu'il émane. Et le peuple, en ville comme en région, se réjouit souvent des changements de direction à la tête de ces théâtres que sont les parlements. Il ne faudrait pas que nos élus oublient qu'une dissidente nommée Fanny sommeille en chacune et chacun de nous, et que le printemps, même s'il ne dure pas longtemps, revient toujours une fois l'an. C'était « Fibre dissidente », un texte de Christian Lapointe paru dans Le Devoir.
Elle s'appelle « Manido Namitic », un texte de Judith Lachapelle, paru dans la presse. Voici l'histoire d'une petite île de la rivière des Outaouais, riche en biodiversité, qui est désormais protégée à perpétuité par les descendants du légendaire chef Anishinaabe Tessouat. Un exemple de restitution territoriale qui pourrait en inspirer d'autres. C'est une toute petite île, de moins de 1 km², au beau milieu de la rivière des Outaouais, juste à côté de la grande île aux Allumettes. Elle est couverte par la forêt bordée de rochers calcaires. Et on y trouve un seul chalet, celui de la famille Hines, propriétaire de l'île Fitzpatrick pendant plusieurs décennies. Un jour, Patrick Hines, a souhaité vendre son île. Mais à qui céder ce trésor quasi intact du Pontiac? Comment s'assurer que les futurs propriétaires en prendraient autant soin que lui et sa famille? Pat Hines et sa famille étaient propriétaires de l'île depuis 70 ans, me raconte Justin Roy, conseiller et directeur du développement économique de la Première Nation de Kebaouwek, à près de 400 km de route au nord-ouest de Gatineau. Et il savait qu'elle avait une grande importance pour la communauté Anishinaabe-Algonquine. Il a voulu nous rendre l'île. L'intention était noble et sincère. Mais pour la mettre en pratique, il a fallu un peu se creuser les méninges. La famille Hines voulait bénéficier du fruit de la vente de son terrain. Mais les Anishinaabe ne pouvaient acheter une terre privée, qu'ils n'ont jamais cédée. Personne ne peut remettre en doute la présence historique autochtone sur l'île Fitzpatrick. Patrick Hines lui-même avait trouvé des pointes de flèche au fil de ses explorations. L'archipel auquel est rattachée l'île était le fief du chef légendaire Anishinaabe, Tessouat. Durant les années 1590, il avait établi un péage sous la forme de marchandises en échange d'un droit de passage sur Kishisibi, la grande rivière. C'est un chef qui a une grande importance historique, dit Justin Roy. Comment faire, dans ce cas précis, pour restituer le territoire ancestral aux descendants des premiers peuples qui l'ont habité? Patrick Hines a commencé à discuter de son projet avec les communautés Anishinaabe vers 2017. À la même époque, l'organisme Conservation de la Nature Canada, CNC, dont la mission est de racheter des terres privées pour les protéger dans leur état naturel, a acquis l'île voisine, l'île Reed. Au cours de ses visites dans le secteur pour y étudier la biodiversité, Caroline Gagné, de CNC, a été étonnée par la densité d'espèces rares qu'on retrouve sur les îles. Dans une propriété, on peut trouver habituellement 2, 3, 4 espèces rares de faune et de flore. Mais là, on en trouve plus d'une dizaine, s'exclame Caroline Gagné. Notamment, des tortues géographiques qui barbotent dans un immense réseau de grottes sous-marines qui courent sous les îles, reliant l'Ontario et le Québec. Bref, chaque fois qu'on allait là, on découvrait des choses exceptionnelles. Donc, Patrick Hines voulait vendre aux Anishinaabe. Les communautés Anishinaabe ne pouvaient l'acheter. Et CNC, déjà propriétaire de l'île voisine, voulait protéger l'écosystème local. Tout ce beau monde a donc commencé à travailler ensemble. D'abord, pour régler la transaction immobilière, CNC et ses donateurs ont fourni le financement privé pour acheter les terres de Patrick Hines à leur juste valeur marchande. Les gouvernements québécois et canadiens, à travers divers programmes de conservation, ont aussi allongé des sommes. De leur côté, 3 communautés, Kebaouwek, Long Point et Témiscamingue, toutes 3 situées beaucoup plus en amont de la rivière, au Témiscamingue, ont créé une fiducie foncière, Anishinaabeg, Aki, Mikinak, Kishi, Sibi. Et c'est à cette fiducie vouée à la conservation de la nature que CNC et ses partenaires ont confié l'île Fitzpatrick en échange de la promesse de la protéger. C'est une première. Jamais encore un transfert de terre n'avait été mené avec ce genre de mécanisme. Et à écouter les principaux acteurs, ce ne sera probablement pas la dernière fois. La fiducie foncière est là. rien ne nous empêche de travailler pour acquérir d'autres terres privées, dit Justin Roy. Et d'autres communautés pourraient vouloir s'inspirer du modèle adopté par les Anishinabés. La collaboration entre autochtones et non-autochtones s'est aussi poursuivie pour réaliser un inventaire complet de la faune et de la flore locale. Nous n'avions jamais rien fait de tel, dit Justin Roy. C'était une belle collaboration entre les sciences occidentales et les connaissances autochtones. C'est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour réaliser de beaux projets comme celui-ci. L'homme tient à rendre hommage à Patrick Hines, qui n'est plus ici pour voir la concrétisation de son projet. Il s'est éteint en 2023. « J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant qu'il ne décède », raconte Justin Roy. « Il était très impliqué dans le processus pour que nous puissions acquérir cette île. C'était important pour lui. Mais avant son décès, il a pu savoir que sa volonté allait se réaliser. » En septembre 2025, les communautés Anishinabé, désormais propriétaires, se sont rassemblées sur l'île pour célébrer le retour historique de ce territoire sous leur gouverne. La femme et le fils de Patrick Hines étaient là, raconte Justin Roy. Nous leur avons transmis nos remerciements. À cette occasion, l'île Fitzpatrick a reçu un nouveau nom des aînés de la communauté. Manido, Namitic, l'île aux esprits, en langue, Anishinaabemowin. C'est une étape importante, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à l'avenir, dit Justin Roy. Un jour, promet-il, le nom de Manido Namitic apparaîtra sur les cartes géographiques. Mais pour l'instant, nous sommes tout simplement très fiers d'avoir créé cette fiducie. L'île est désormais protégée. C'était « Elle s'appelle Manido Namitic », un texte de Judith Lachapelle paru dans la presse.
Les Québécois mangent encore trop salé et trop sucré, révèle une vaste étude. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. Malgré les discours ambiants sur l'importance de bien manger, l'assiette des Québécois laisse encore à désirer. Trop de sel, trop de sucre, pas assez de fruits et de légumes, nos habitudes alimentaires sont loin de respecter les recommandations de la santé publique, révèlent les premières données de Nutri-Québec, la plus vaste étude jamais menée sur le sujet dans la province. En tête des mauvaises habitudes, un appétit démesuré pour les aliments salés. Pas moins de 8 adultes sur 10 consomment plus de 2300 mg de sodium par jour, soit la limite à ne pourtant pas dépasser pour prévenir les maladies cardiovasculaires. La consommation moyenne de sodium d'un adulte québécois s'élève à 3200 mg quotidiennement. 7 adultes sur 10 consomment plus d'une boisson sucrée par semaine, la moyenne s'établissant à 125 ml par jour. Et seul le tiers des adultes, 36 % consomment les 5 portions de fruits et de légumes par jour recommandées par la santé publique. On est bien loin de la cible de 50 % que s'est fixée Québec en 2019 avec sa politique gouvernementale de prévention en santé. Ces résultats, dévoilés le mercredi 7 janvier 2026, reposent sur le suivi des habitudes alimentaires de plus de 6300 adultes de la province depuis 2019. L'enquête Nutri-Québec vise à suivre l'évolution de l'alimentation de la population québécoise sur un horizon de 25 ans afin d'établir un portrait clair des défis nutritionnels. Des inégalités alimentaires bien ancrées. Benoît Lamarche, chercheur responsable de Nutri-Québec et directeur du Centre Nutris de l'Université Laval, n'est pas surpris par ces constats qui confirment une tendance à travers le Canada et ailleurs sur la planète. Ils n'en sont pas moins préoccupants, sachant que la qualité de l'alimentation constitue l'un des principaux facteurs de risque des maladies chroniques. Le problème, insiste M. Lamarche, ce n'est pas un manque de connaissances ou de volonté. Les gens savent ce que veut dire « bien s'alimenter », mais ils ont de la difficulté à le transposer dans leur quotidien. Cette difficulté résulte d'une combinaison de facteurs, selon lui, à commencer par l'accès limité à des aliments de qualité, que ce soit pour des raisons financières ou géographiques. L'étude montre justement bien que l'insécurité alimentaire influence la qualité de l'alimentation et accentue par la bande les inégalités en matière de santé. Alors que 40 % des personnes en sécurité alimentaire consomment 5 portions de fruits et de légumes par jour, ce chiffre tombe à 10 % chez celles en situation d'insécurité alimentaire. On parle quand même de 15 à 20 % de la population au Québec touchée par cette insécurité alimentaire. Ça commence à faire beaucoup de monde qui vit des enjeux nutritionnels importants, souligne le chercheur. Revoir nos modes de vie. Le rythme de vie effréné, le coût des aliments toujours plus élevé, l'omniprésence des produits transformés et la publicité jouent aussi un rôle dans l'adoption de mauvaises habitudes alimentaires, de l'avis de M. Lamarche. On est dans des modes de vie où on travaille beaucoup, on est pressé, on manque de temps pour cuisiner. Les aliments emballés et prêts à manger à l'épicerie deviennent une option facile et parfois moins chère, note le chercheur, soulignant toutefois qu'ils sont de moins bonne qualité. C'est sûr qu'on ne peut pas du jour au lendemain imposer à tout le monde de retourner en cuisine, mais il faut, de façon urgente, reconfigurer comment on voit la place de l'alimentation dans notre vie. Le chercheur espère que le nouveau symbole nutritionnel désormais obligatoire sur les produits transformés, considérés trop gras, trop sucrés ou trop salés, aidera les Québécois à faire de meilleurs choix à l'épicerie et poussera l'industrie à leur proposer des produits plus sains. D'autres mesures politiques seront toutefois nécessaires pour changer les choses. Il existe des taxes sur les boissons sucrées dans certains pays qui ont entraîné une diminution de leur consommation. Et si ces taxes-là étaient réinvesties pour aider les populations vulnérables à avoir accès à des fruits et des légumes à moindre coût, propose-t-il. Si le Québec encadre globalement bien la publicité alimentaire à la télévision, M. Lamarche suggère également de mieux réguler les réseaux sociaux. C'est à ça que sert Nutri-Québec, dresser un portrait de la situation afin de guider nos décideurs pour enfin changer les choses. C'était « Les Québécois mangent encore trop salé et trop sucré » révèle une vaste étude. Un texte d'Annabelle Caillou paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.